This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire ou quand le jazz retrouve des repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier, réalisée par Bruno Bertrand. Cette année-là, donc 1974, nous avons évoqué la trajectoire de Simone Veil et nous allons évoquer celle de Françoise Giroud. Voilà deux femmes qui ont fait une carrière non pas dans la politique, mais dans la société civile, comme l'on dit. Simone Veil, grande magistrate, présidente de tribunal et pour finir employée au ministère de la Justice et du garde des Sceaux. Françoise Giroud, c'est une autre trajectoire. C'est une journaliste, quelqu'un qui a commencé dans la vie comme script girl de cinéma. Elle a été la script d'un grand cinéaste français, Jean Renoir. Et donc, elle va faire ensuite, grâce à de multiples connaissances, elle va faire carrière après la guerre dans le groupe de la famille Lazareff. Elle va commencer dans la revue, dans le magazine Elle, puis dans France ce soir, et puis va devenir directrice de l'Express qu'elle fondera avec Jean-Jacques Servan-Schreiber pendant la guerre d'Algérie. Françoise Giroud, c'est donc l'arrivée d'une femme de médias dans un nouveau ministère. Elle a appelé à voter, paradoxalement, pour François Mitterrand en 1974. Et Valéry Giscard d'Estaing, donc devenu président de la République, va faire appel à elle et l'imposer, d'une certaine façon, à Jacques Chirac, Premier ministre, en créant le secrétariat d'État à la condition féminine. Alors c'est un secrétariat d'État qui sera de courte durée, puisqu'il va, son existence va durer 2 ans, de 1974 à 1976. On verra un petit retour de ce secrétariat d'État sous la forme de 2 secrétariats d'État, d'ailleurs, en 1978, avec l'emploi et la condition féminine sous forme séparée. Et il faudra attendre 1981 pour avoir apparaître un ministère des droits de la femme, en l'occurrence avec la personnalité d'Yvette Roudy, à l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Alors, lorsque Françoise Giroud accepte cette tâche, elle va donner une interview à la sortie de l'hôtel Matignon. Cette interview va être donnée à l'ORTF, car à ce moment-là, eh bien, toutes les chaînes de télévision et de radio sont de service public. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui va démanteler l'ORTF, toujours dans cet esprit libéral, liberté des mœurs, liberté économique, libéralisation de l'ensemble des services publics. Voyons ce qu'a dit, un peu surprise, Françoise Giroud à la sortie sur le perron de l'hôtel Matignon.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. En devenant secrétaire d'État à la condition féminine, Françoise Giroud, directrice de l'hebdomadaire L'Express, est la 4e femme à faire son entrée au gouvernement. Il était 13h exactement lorsque la nouvelle a été rendue officielle. Françoise Giroud avait été reçue ce matin pendant un quart d'heure à l'Élysée par le président Giscard d'Estaing, avant de se rendre à l'hôtel Matignon pour un entretien plus approfondi avec le Premier ministre, M. Jacques Chirac. À 58 ans, Françoise Giroud estime, je cite, qu'elle n'a pas été appelée à ce poste pour faire de la décoration, mais elle veut effectivement tenter d'améliorer le sort des femmes dans notre pays. Écoutez plutôt ses toutes premières impressions.
Mardi 13h, à l'hôtel Matignon, sur le perron, Françoise Giroud apparaît un peu surprise et fort souriante.
Je crois que c'est un poste important dans l'esprit du président de la République et du Premier ministre. Je crois qu'il attache beaucoup de prix à ce que la condition féminine soit considérée, améliorée, à ce que l'égalité des droits entre les femmes et les hommes soit recherchée, en tout cas sinon atteinte. Je n'ai pas eu à poser des conditions parce que tout ce qu'on m'a dit me donne à penser que je pourrais exercer cette fonction convenablement.
Vous allez continuer à écrire dans l'Express, Madame Giroud ?
Je crois que je pourrais écrire certainement pas régulièrement. Je vais pas. Je crois que ce ne serait pas convenable d'être à la fois chroniqueur de l'Express et d'avoir une fonction gouvernementale. Mais je pense que j'aurai la liberté d'écrire de temps en temps, en tout cas en ce qui concerne les matières dont je vais m'occuper. Je crois que nous vivons dans une société où l'on s'efforce d'obliger la physiologie féminine à s'adapter à un monde masculin, que ça n'est pas très heureux, ni pour les femmes ni pour les hommes, mais qu'il n'y a absolument pas de raison que les femmes n'aient pas le droit d'avoir dans la société non seulement la place qui leur revient par leur capacité, mais par le rôle qu'elles jouent dans la vie économique du pays.
Et déjà, Françoise Giroud, secrétaire d'État à la condition féminine, s'apprête sans tarder à exercer ses nouvelles fonctions.
Est-ce qu'il y a une date de fixée pour cette prise de responsabilité?
Je crois qu'elle est immédiate, puisque je dois en principe assister au Conseil des ministres de demain matin. Ah, bien sûr, j'ai des idées sur le fait qu'il faut que la condition féminine s'améliore très sensiblement et que nous travaillons dans le sens de la recherche de l'égalité des droits des femmes et des hommes dans ce pays, pour le mieux des femmes et des hommes. Je ne voudrais pas, surtout, que l'on pense, parce que je ne le pense pas, que travailler pour les femmes consiste à travailler contre les hommes. Ce n'est pas vrai.
Voilà, donc François Giroud, évidemment, va profondément marquer ces deux années d'exercice. Rappelons que, comme je disais au début, elle a donc une vie importante derrière elle, puisque, comme l'a dit le journaliste qui l'interviewe, elle a 58 ans. Elle a, à part d'avoir fait du cinéma, elle a donc été agent de liaison pendant la Résistance. Elle a donc un passé de résistante derrière elle. Journaliste, donc elle a fondé en 1953 l'Express. Et c'est elle qui a créé l'expression « nouvelle vague ». C'est elle qui, au cours d'une enquête, est la première à avoir parlé à propos des jeunes cinéastes français qui étaient François Truffaut, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard et beaucoup d'autres, Louis Malle et j'en passe, qui a donc utilisé cette expression de « nouvelle vague » qui restera, bien sûr, dans l'appellation de ce groupe de cinéastes qui n'était pas une école, mais qui était simplement un regroupement de quelques amis. Alors, c'est elle aussi qui parlera des féministes américains comme Kate Millett ou Germaine Greer. C'est une femme très curieuse, elle faisait du journalisme d'investigation et donc elle aura une espèce de elle jouera dans la presse et les médias français de cette époque un grand rôle. C'est probablement à ce titre et par sa stature que le président de la République fera appel à elle, donc à ce secrétariat de la condition féminine où elle prendra au total, avec un slogan un petit peu de communication déjà à l'époque, 101 mesures en faveur des femmes. Alors ça va toucher aux droits propres, à la lutte contre les discriminations, notamment à l'emploi, et également à l'ouverture des métiers dits masculins. Et donc, ça va créer une sorte d'appel d'air en matière d'emploi notamment et de droits divers pour les femmes de cette époque. Elle fera un gros travail législatif et administratif pour améliorer les conditions de vie en termes de droits de la part pour les femmes. Alors, lorsqu'elle partira de cette expérience, sachant que donc elle va rester deux ans au secrétariat d'État à la condition féminine. Ensuite, elle acceptera un secrétariat d'État à la culture, où elle restera également deux ans. Et puis, elle quittera pour des raisons diverses. Elle se présentera aux élections à Paris avec en tête de liste Michel Dornano. Cette expérience sera assez malheureuse pour diverses raisons. Et donc, une fois qu'elle aura passé elle aura fait ce passage dans le gouvernement, elle va prendre un peu de champ et elle va écrire deux livres sur son expérience du pouvoir. Alors, un premier qui paraîtra en 1979 qui s'appelle « La comédie du pouvoir », que l'on trouve encore, bien sûr, en livre de poche. Et puis, « Le bon plaisir ». Alors, « Le bon plaisir », en 1983, c'est un livre assez étonnant qui sera adapté lui aussi au cinéma, avec dans le rôle du président de la République Jean-Louis Trintignant. Et « Le bon plaisir » est publié aux éditions Mazarine. Alors, ce n'est pas un hasard. En fait, ce livre parle d'un président qui aurait une fille cachée. Le livre raconte un peu cet épisode dans la vie d'un président de la République qui semble imaginaire et qu'à l'époque on n'imagine pas être quelqu'un de particulier. Mais bizarrement, il y a cette coïncidence avec ce terme de Mazarine, donc des éditions. Elle finira donc sa carrière publique, on va dire, en devenant chroniqueuse Nouvel Observateur jusqu'à sa disparition. Elle est décédée en 2003 et d'accident. Je vous propose d'écouter ce qu'elle disait de sa première année d'exercice et de sa fonction à Jacqueline Collins lors d'une interview à propos de l'année internationale de la femme.
L'ONU a décidé que cette année serait l'année internationale de la femme. Pourquoi cette année, à votre avis? Est-ce que c'est parce que tout d'un coup, tout le monde a pris conscience des problèmes de la situation des femmes?
Non, je ne crois pas. Vous savez, chaque année, l'ONU déclare qu'il y a l'année de la population, l'année de ceci ou de cela. Cette année, les femmes, peut-être parce que c'est un peu la mode, mais pas dans le sens péjoratif du terme, c'est aussi positif que ce soit la mode. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience de la situation des femmes, en particulier aux États-Unis, où, comme vous savez, il y a eu même des révoltes assez vives dans la population féminine. Il se trouve que le siège des Nations Unies est à New York. Par conséquent, ceux qui la dirigent y ont peut-être été particulièrement sensibles. D'autre part, c'est vrai qu'il y a eu en France un phénomène qui a été ressenti en général dans le monde entier. Mais enfin, l'année internationale de la femme a été décrétée avant. Je crois aussi que dans des pays en voie de développement, quelque chose se passe de ce côté-là, mais c'est probablement beaucoup moins sensible qu'en Europe ou aux États-Unis.
Oui, parce qu'on ne peut tout de même pas comparer la situation des femmes dans tous les pays du monde. Les pays sous-développés, la situation n'est pas la même du tout que dans nos pays.
Elle n'est pas la même du tout. On peut la comparer seulement parce qu'il y a tout de même un phénomène mondial qui est la revendication féminine vers l'égalité. C'est une des raisons pour lesquelles cette année internationale peut présenter quelque intérêt d'ailleurs. C'est précisément la comparaison entre ce qui se passe dans les différents pays de même niveau.
Est-ce que vous-même, depuis que vous êtes secrétaire d'État à la condition féminine, vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas, vous n'auriez pas soupçonné avant?
Oh, je n'aurais pas soupçonné, non, je ne peux pas dire. En gros, je n'ai rien découvert. J'ai découvert naturellement un certain nombre de choses en détail, en particulier dans la législation, dans les textes administratifs, dans certaines conditions féminines que je connaissais très mal. Par exemple, la condition des femmes rurales. Comme beaucoup de Parisiens, je connais mal la campagne. Pour moi, la campagne, c'était autre chose. Et j'ai découvert là une catégorie de femmes tout à fait remarquables, intelligentes et qui ont une approche à leurs problèmes très, très particulière. Et très, très tonique d'ailleurs. Et puis j'ai découvert, on ne peut pas dire que j'ai découvert, enfin j'ai constaté qu'il y avait encore un petit peu plus d'injustice que je ne le pensais dans la condition des femmes à travers les textes. Et c'est d'ailleurs cette injustice que j'essaye de réduire.
Est-ce que justement, si les femmes s'occupaient un peu plus de politique, il n'y aurait pas une amélioration plus rapide? Les femmes ne font pas beaucoup de politique en France. Pourquoi, à votre avis?
Écoutez, ça dépend ce que vous appelez faire de la politique. C'est vrai qu'en général, les femmes ne font pas beaucoup de politique. D'abord parce qu'il n'y a pas tellement longtemps qu'elles votent. Et parce qu'il faut bien une génération ou deux pour se mettre à s'intéresser aux problèmes politiques. C'est certain, elles sont un peu sceptiques par rapport à la politique. Ou plus exactement, elles ne voient pas bien le rapport qu'il y a entre ce qu'on appelle la politique et leurs problèmes concrets quotidiens. Mais elles commencent à le voir, et en particulier le voient toutes celles qui ont une activité municipale. C'est à travers la mairie, la cité, la commune, que l'on comprend ce que c'est que la politique, le rapport de la politique à la vie quotidienne. C'est très important, et de ce côté-là, il y a un progrès. Il y a pas mal de femmes qui ont commencé à s'intéresser à l'activité municipale, qui sont conseillères municipales, même conseillères générales. Et il y a tout de même, ce n'est pas énorme, mais enfin il y a tout de même près de 700 femmes maires en France. Il n'y en a pas encore qui soient maires d'une très grande ville, mais enfin c'est déjà un progrès.
Enfin, il y en a peu quand même qui aient des responsabilités importantes dans les partis politiques par exemple.
Dans les partis politiques, pas du tout. Mais alors là c'est l'attitude des hommes. Il faut bien le dire, en ce qui concerne la politique, les milieux politiques ne sont pas particulièrement favorables aux femmes, encore que là, les choses aient l'air d'être en train de changer. Le fait qu'il y ait 4 femmes au gouvernement va peut-être modifier certains comportements, même pas peut-être, va certainement modifier certains comportements. Ce n'est pas un privilège que l'on laissera à M. Giscard d'Estaing, c'est bien évident. Donc là, il y a quelque chose de positif. Mais nous avons un système électoral qui n'est pas favorable à l'accession des femmes à la députation. Le système du scrutin d'arrondissement fait qu'il est très personnalisé. Et quand il y a une bonne circonscription, les dirigeants politiques disent « on ne va pas la donner à une femme parce qu'on ne sait jamais si elle nous la faisait perdre ». Quand elle est mauvaise, on y envoie une femme, elle est battue. Et on dit « vous voyez bien, quand on envoie une femme, elle est battue ». Par conséquent, le système est largement responsable. La preuve en est qu'après la libération, nous avions un système différent, qu'on appelait le scrutin de liste, qu'on peut aimer ou ne pas aimer pour d'autres raisons. Mais à ce moment-là, il y a eu beaucoup plus de femmes à l'Assemblée nationale qu'aujourd'hui.
Est-ce que si plus de femmes avaient des responsabilités politiques, ça changerait quelque chose dans les politiques, par exemple dans la politique internationale?
On peut penser que ça changerait quelque chose si elles étaient en nombre suffisant pour n'avoir pas à copier les attitudes masculines, c'est-à-dire si elles pouvaient introduire quelque chose de spécifiquement féminin. Alors, qu'est-ce qui est spécifiquement féminin? Ça, c'est une autre histoire. Je pense néanmoins que des femmes entrant en grand nombre dans les centres de décision changeraient quelque chose et, je l'espère, pour le meilleur.
Voilà, c'était il y a 40 ans, Françoise Giroud s'exprimant sur la condition féminine. Il est à souhaiter que ces 40 ans n'auront pas été inutiles et que les prochaines années verront de très sérieuses avancées sur ce sujet. Cette année-là, donc en 1974, eh bien, voit la disparition de Marcel Pagnol. Le célèbre auteur de la trilogie Marius César... Marius César et le troisième que j'ai oublié. Cette année-là qu'on voit quelques films assez significatifs de l'évolution des mentalités, puisque c'est Bernard Blier tourne Les Valseuses, Claude Pinoteau tourne La Gifle, une sorte, alors Les Valseuses sur des personnages assez anarchisants, La Gifle, les revendications d'une jeune lycéenne à l'égard de sa famille. Et puis, c'est aussi cette année-là que sort le fameux film sulfureux « Emmanuel » que l'on doit à Just Jacking, qui est, un nanar de luxe, mais dont on a beaucoup parlé et dont on parle encore d'une certaine façon, même si aujourd'hui, il apparaît comme bien timide à l'égard de ce que l'on peut voir sur les écrans. Et bien, cette année-là, un nouveau groupe commence à se faire connaître en matière de jazz. Il s'agit de Weather Report qui publie son cinquième album en cette année-là, donc sous le titre Mysterious Travel. Thank you. Miroslav Stune, un morceau de Miroslav Vitus, le nom du contrebassiste, du bassiste de ce groupe. Un groupe constitué, un des premiers groupes de jazz-rock fusion créé en 1971 par deux anciens accompagnateurs de Miles Davis, Josaui Newell et Wayne Shorter, que l'on entend longuement ici. Josaui Newell, grand spécialiste de claviers en tout genre, et Wayne Shorter, que l'on entend au saxophone ténor et également saxophone alto. Ce sont des musiciens qui ont regroupé autour d'eux à la fois des percussionnistes et puis des musiciens à instruments électrifiés. Dans ce morceau qu'on vient d'entendre, donc un percussionniste Aerto Moreira, percussionniste brésilien, et Alphonse Mouzon à la batterie, accompagnaient les trois autres musiciens. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait de ce cinquième album du groupe Weather Report pour les disques Columbia. Il s'agit d'un morceau plus ancré dans dans l'Amérique du Sud, c'est Cucumber Shunter.
Thank you.
Cucumber Shunter, pardon, par le Weather Report avec au conga un invité dans ce morceau Ray Barreto que l'on entendait assez longuement en fond de musique. Voilà, deuxième épisode de cette année 74. Le troisième est à suivre, mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words. Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.